Betsabe Romero, artiste mexicaine, qui participe à cette exposition US-Mexico Border. C'est une exposition qui s'est présentée d'abord à Los Angeles et dans le contexte d'un grand événement où tous les musées de Californie présentaient que des artistes latino. Alors, ça s'appelait Pacific Standard Time, LA, c'est-à-dire latino pour LA. Et c'était la première fois qu'il y avait si tant d'artistes latinos dans les musées en Californie. Et même si la population là-bas, la plupart c'est des latinos, non? C'est la 12e ville habitée par des Mexicains au monde, plus que Guadalajara, par exemple. Bon. Alors, et les commissaires de l'île 3000 sont allés visiter tout cet événement. Ils ont vu cette exposition commissariée par Anne-Hélène Amalet et ils l'ont invitée aujourd'hui. Et je crois que c'est très intéressant parce que c'est une exposition qui parle de la dynamique culturelle entre des métissages et des migrations et de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et c'est assez pertinent dans un contexte où la migration et les frontières sont tellement dures et ils provoquent des choses tellement violentes et terribles dans tout le monde maintenant, non? Alors c'est un sujet qui devient de plus en plus important pour la culture, pour les artistes et pour tout le monde, non?
Beaucoup de personnes d'origine, on va dire, mexicaines, ne sont jamais allées à Mexico ou au Mexique. Elles sont aux États-Unis.
Ben oui, et surtout parce que quand ils n'ont pas de papier, ils sont indocumentés ou illégales, et ils peuvent pas traverser au Mexique, ils ne peuvent pas aller, ou ces enfants ne peuvent pas aller, parce que s'ils traversent et ils vont au Mexique, ils ne peuvent plus retourner. Alors, c'est une situation difficile. Avant, dans les écoles, il s'était interdit qu'ils parlent espagnol. Alors, c'est pour ça qu'il y a des générations qui se sont mexicains, ils portent la culture mexicaine, mais ils ne peuvent même pas parler la langue, parce que c'était interdit aux États-Unis. Et maintenant, avec Trump, ça devient une politique aussi très endurcie vis-à-vis des Mexicains.
On m'a dit que l'espagnol était vraiment très, en termes de langue, très répandu aux États-Unis. C'est la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis?
Oui, bien sûr, oui. Oui, au niveau des populations, c'est c'est surtout la langue, la deuxième parlée, bien sûr.
Donc, votre œuvre, ici présentée?
Oui, bah ici, ce sont les stalactites et les stalagmites urbaines, parce que moi, je trouve que le migrant suit un parcours beaucoup, beaucoup plus dur et beaucoup plus long que les autoroutes ou que les murs physiques et géographiques qui ont dit les frontières physiques, en fait. Moi, je trouve que ce ne sont pas les frontières que les migrants traversent. En fait, ça répond aux soucis beaucoup plus profonds et aux idéaux beaucoup plus loin et plus grands. Et c'est pour ça que, dans mon cas, l'idéal, c'est vertical, ça va vers le ciel et c'est enraciné très profondément à la mémoire de chacun, la mémoire culturelle qu'on a, qu'on porte au pays où on va quand on migre. Alors, chaque petit pneu, c'est comme cette mémoire individuelle qui est gravée, tatouée dans le corps, dans notre âme et qu'on reproduit, c'est qu'on porte vers les autres, vers la famille qui reproduit, même si la géographie n'est plus là, même si la terre n'est plus à nous, et les gens, leur culture, pour continuer à avoir une identité. Alors ici, toutes les plumes sont gravées avec l'iconographie précolombienne de toute l'Amérique, même les Indiens de l'Amérique du Nord, parce que là, il y a une frontière invisible pour les Indiens qui sont, même aux États-Unis, il y a des dynamiques migratoires et des frontières avec eux aussi. Alors, c'est ça. Ce sont les stalactites et les stalagmites urbaines faites à base de petits pneus de caoutchouc.
Comment vous réagissez face aux œuvres de vos collègues artistes qui présentent là, par exemple, ces plumes qui sont aussi un symbole fort?
Pour moi, c'est très intéressant de participer et avec des artistes mexico-américains que pour moi, ils portent la culture, mais ils parlent anglais et on ne se connaît pas. Et je crois qu'autant que Mexicains habitant au Mexique, on a une dette avec eux parce qu'on ne les reconnaît même pas autant qu'artistes comme nous, artistes mexicains. Ils ne participent pas de la même façon dans les événements mexicains. Et cette exposition, c'est le contraire. Ici, c'est mélanger les Mexicains et les Mexico-Américains. Et je trouve que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est la seule façon d'effacer les frontières politiques qui en fait n'ont pas raison d'exister.
Votre ambassadeur est venu l'année dernière, hein, quand il y a eu un peu la présentation de cet événement qui se profilait. Qu'est-ce qui a changé depuis au Mexique, ou entre le Mexique et les États-Unis, ou entre le Mexique et la France? Est-ce que vous sentez des choses qui ont bougé?
Je crois plutôt aux petits changements, et surtout au niveau d'artiste. Je crois que les changements qu'on peut proposer ou essayer de faire sont micro changements entre les gens, avec le public, au niveau rapport entre différents publics aussi, qui ne sont pas les publics traditionnels d'art contemporain, qui aussi sont très élitistes par soi-même. Alors, je trouve que cet événement à Lille répond aussi à une politique qui cherche ou qui croit à l'art et à la culture comme un moteur de changement social. Et si on est là et on parle de ce qui se passe aussi aux États-Unis et entre les États-Unis et le Mexique, c'est déjà quelque chose de bien.
Donc on est dans un monde où la culture a pris aussi un côté économique. Est-ce que le monde de l'art commercial, d'une certaine manière, hein, les galeries, etc., reconnaissent les artistes mexicains? Est-ce que beaucoup d'entre eux sont connus maintenant et sont cotés, on va dire, d'une certaine manière, sur le marché de l'art?
Le marché de l'art, c'est une autre chose. Là, par exemple, il y a, dans le mainstream, il y a proportionnellement quelques galeries latino-américaines qui participent à tous les grands foires d'art internationales. Et il faut dire que le Mexique, il y a deux, trois, quatre galeries de ce niveau-là et que 4-5 artistes sont reconnus partout. En général, ils sont des hommes et c'est pas encore les femmes, même si Frida Kahlo, c'est une grande icône dans le monde. Mais ça, c'est dans tout le marché de l'art, la femme est en train de monter à peine. Et le Mexique n'est pas dans le même rythme, malheureusement. Mais bon, moi, je trouve que des fois, c'est pas seulement le marché qui parle des choses les plus importantes dans la culture et dans l'art. Je crois que maintenant, les événements culturels et artistiques se déroulent avec l'espace public, avec des rapports intéressants entre les communautés, dans des lieux où les problèmes politiques sont en train de se passer, d'une façon qui a une visibilité au-delà du marché. Et ça, c'est très important.
Merci d'être venu nous présenter donc votre exposition, votre travail et aussi votre réflexion sur nos échanges culturels et interculturels.
Merci beaucoup. Merci à vous.